VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Burundi, le procureur de la République vient de donner les principales conclusions de la commission d'enquête sur la mort de plus d'une centaine de personnes dans certains quartiers contestataires de Bujumbura les 11 et 12 décembre 2015. Le point avec notre correspondant dans la capitale burundaise, Christophe Nkurunziza.
Le 11 décembre 2015, Bujumbura dormit sous les coups d'armes automatiques et d'explosions de grenades après l'attaque de quatre camps militaires dans les provinces de Bujumbura et Bujumbura Oural, selon un rapport que le procureur général de la République vient de rendre public ce jeudi. Ce dernier affirme que des combattants d'un groupe armé non encore identifié se sont alors rendus dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Les forces de défense et de sécurité, en poursuivant ces combattants en tenue militaire et policière, ont tué 87 personnes, dont 4 militaires, 4 policiers et 70 19 combattants. Le procureur général de la République confirme que ceux qui n'ont pas été identifiés ont été enterrés dans les cimetières de Kanyosha et Mpanda pour des raisons de salubrité. Mais 87 autres assaillants sont aujourd'hui incarcérés dans la prison de Muramvya au centre du Burundi. Cependant, observe le procureur général de la République, 7 combattants ont été retrouvés morts dans des circonstances non encore élucidées. Un dossier répressif a déjà été ouvert. Toutes les allégations faisant état de fosses communes où auraient été enterrées les personnes tuées le 11 décembre 2015, comme l'affirme certaines ONG internationales, ne sont pas fondées, selon toujours le procureur général de la République. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En RDC, 7 leaders politiques des transfuges de la majorité passés à l'opposition au président Joseph Kabila en septembre 2015 se sont rangés en ordre de bataille derrière l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi. Réunis à Lubumbashi, cette plateforme, le G7, insiste pour que la présidentielle ait lieu en 2016 comme le veut la Constitution nationale. Eddy Sango a joint par téléphone l'un des 7 leaders en question, Christophe Lutundula.
Le gouverneur Moïse Katumbi ne s'est pas encore déclaré candidat à quelque mandat que ce soit. Pour nous, le jour où il va se déclarer candidat, il peut compter sur le G7. Il n'y a aucune raison objective qui puisse faire qu'il ne puisse pas compter sur nous. Dès lors que nous menons le même combat, que nous avons une identité de vue et une identité des valeurs et des objectifs.
Christophe Lutundula, un des 7 leaders de la plateforme G7. Afrique de l'Ouest maintenant, élection au Bénin. Le second tour opposera, sauf avis contraire du Conseil constitutionnel, Lionel Zinzou, candidat du pouvoir en place et qui incarne la continuité de la politique du président sortant Thomas Boni Yayi, à Patrice Talon, candidat indépendant qui incarne la rupture. Mise en perspective avec Ginette Fleur Adande, notre correspondante à Cotonou.
Depuis que la Sénat a donné les grandes tendances du scrutin du 6 mars dernier, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle, seule habilitée à donner les résultats officiels en confirmant ou non le second tour entre Lionel Zinsou et Patrice Talon. En attendant, les langues se délirent, la guerre psychologique se fait avec rage sur les réseaux sociaux. Pour certains journalistes politiques, les tendances du premier tour démontrent que le peuple a été déçu par les deux mandats du chef de l'État Thomas Boni Yayi.
Ce qui se dessine, c'est que le peuple a rejeté l'alliance républicaine. Ce qui se dessine, c'est que Talon va venir au pouvoir. Parce que même si Adjavo appelle aujourd'hui à voter Zinsou, l'électorat qu'il a loué ne le suivra pas.
À l'heure où nous parlons, aussi bien Zinsou que Talon sont tout près du fauteuil présidentiel. Le prochain président, ce sera ou Zinsou ou Patrice Talon. Mais le tout dépend de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils promettent.
Déjà, Blaï Biotchani est arrivé en quatrième position selon les tendances données par la Sénat à appeler mercredi ses militants à tirer un trait sur les 10 ans de gabegie pour parler des deux mandats de Yayi Boni. Pour l'analyste politique Espedi Ologu, à l'étape actuelle des choses, si le second tour entre Patrice Talon et Lionel Zinsou se confirmait, l'homme d'affaires a plus de chances de s'en sortir face à un Lionel Zinsou défavorisé par le pouvoir en place dont les actions ont été rejetées par le peuple le 6 mars dernier.
Les vents sont favorables à Talon. Il y a la mytho de la pugnacité de l'homme. Mais pas que ça. Jusqu'au bout, Boni Yayi l'aura aidé par la victimisation en l'occurrence. Au second tour, nombre de Béninois ne voteront pas pour Talon. Ils voteront contre Boni Yayi et Lionel Zinsou, ils voteront contre la continuité.
La Cour constitutionnelle se prononcera certainement cette semaine pour fixer tout le monde. Mais en attendant, les grandes tendances données par la Sénat continuent de faire couler couler assez d'encre et de salive, surtout avec cette décision prise par le gouvernement d'enquêter sur un supposé achat de conscience qui aura eu lieu la veille et le jour du scrutin via les réseaux mobiles. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Gambie, trois organisations de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty International, le Comité pour la protection des journalistes et Human Rights Watch, exigent la libération du journaliste gambien Alhaji Cissé, directeur de la radio privée Teranga FM. Il est détenu depuis juillet 2015 par les services de sécurité gambiens. Les explications de Stephen Cockburn d'Amnesty International à Dakar.
Il était détenu en juillet 2015 par les agents de renseignement. Il n'avait pas accès à sa famille, il n'avait pas accès à son avocat. Et il était inculpé pour une charge de la sédition et aussi pour d'avoir publié les fausses nouvelles. Il est en détention maintenant pendant plus de 8 mois en attendant son procès. Et son état de santé est en train de détériorer. Il a été hospitalisé deux fois ces derniers deux mois. Et nous nous inquiétons que pour sa santé, mais aussi pour les allégations de torture qui ont été faites. Nous demandons aux autorités gambiennes de le libérer et de s'assurer qu'il peut continuer à avoir accès au traitement médical.
Stephen Cockburn, d'Amnesty International à Dakar. Relation entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a mené une mission délicate cette semaine lors de sa visite officielle au Nigeria. Renouer les liens considérablement dégradés ces dernières années entre les deux plus grandes puissances économiques du continent africain. Les précisions de Michel Joseph.
La compétition économique est le principal ressort de la tension des relations entre les deux géants africains. Et l'arrivée de l'inflexible Muhammadu Buhari à la tête de l'État d'Afrique de l'Ouest en mai dernier ne semble pas vraiment avoir changé la donne. Devenue depuis avril 2014 la première puissance économique du continent grâce à une nouvelle méthode de calcul de son PIB, le Nigeria est davantage un concurrent qu'un partenaire pour l'Afrique du Sud. 120 entreprises sud-africaines sont implantées au Nigeria, qui n'est que le septième partenaire économique de Pretoria sur le continent. La visite de Jacob Zuma s'est donc inscrite dans une volonté de changement pour les deux pays qui vivent une période économique difficile. L'Afrique du Sud est minée par le ralentissement de la croissance chinoise et la chute du cours des matières premières, tandis que le Nigeria souffre de la baisse du cours du pétrole, dont il est le premier producteur africain. À l'issue de sa visite, le président Zuma a ainsi annoncé que plus de 30 accords bilatéraux avaient été signés.
Conflit en Somalie, démenti du Pentagone, les troupes terrestres américaines n'ont pas pris part au raid de mercredi à l'aube visant des militants d'Al-Shabaab dans le pays. Le Pentagone précise maintenant que seuls les hélicoptères américains y ont pris part. Selon le chef de la police de la région somalienne du Bas-Chabel, Abdi Ibrahim Chamo, les forces impliquées dans le raid ont tué 15 militants et arrêté 6 autres. En Arabie Saoudite, le roi Salman et de nombreux chefs d'État étrangers, notamment d'Afrique, ont assisté aujourd'hui à la fin des manœuvres militaires Tonnerre du Nord, les plus importantes jamais organisées dans le royaume wahhabite. Des unités de 20 pays arabes et musulmans y ont participé, près de la garnison de Afr al-Batin, dans le nord-est saoudien, près des frontières de l'Irak et du Koweït. Parmi les leaders, objectif de l'exercice qui a duré 12 jours, coordonner les efforts des pays participants dans la lutte contre le terrorisme. Parmi les leaders africains présents, citons l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Soudanais Omar al-Béchir, le Sénégalais Macky Sall, le Mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, le Tchadien Idriss Déby Itno et aussi le Djiboutien Omar Guelleh. Toujours concernant la lutte contre le terrorisme, célèbre pour sa barbe rousse, Omar le Tchétchène a probablement été tué par une frappe aérienne américaine. Il est l'un des chefs militaires les plus recherchés du groupe État islamique en Syrie. Les États-Unis ont annoncé hier avoir probablement tué ce commandant militaire dans un bombardement sur le nord-est de la Syrie il y a quelques jours. Présenté comme un chef de guerre expérimenté, sa tête était mise à prix par Washington pour 5 millions de dollars. Par le passé, Omar le Tchétchène a été déjà donné pour mort plusieurs fois avant de réapparaître bien vivant. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.